l'État du Vermont, depuis les années 90, a pu se pencher un peu du côté démocrate, avec notamment Bill Clinton, et en 64 avec Lyndon Johnson. Donc pour nous, déjà, hein, par rapport à tout ce que nous avons pu prévoir dès le début en fait, de l'année dernière, nous pensons que ce grand mardi a été assez concluant et n'a fait que mettre en exergue tout ce que nous avons pu réfléchir, que ce soit sur ce plateau ou dans d'autres domaines, nous avons eu la possibilité de nous entretenir.
René-Lec, à ce stade, est-ce qu'on peut encore s'attendre à des surprises sur le face-à-face de cette présidentielle, le duel Trump-Biden?
Ah, des surprises, je ne sais pas si la surprise, c'est, vous faites allusion au résultat final de la présidentielle. Oui, c'est difficile de dire qui va l'emporter. Pour l'instant, les sondages donnent un avantage assez important à Donald Trump. Sur six États charnières, notamment la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, la Géorgie, le Nevada et l'Arizona. Sur ces États charnières, Trump a un avantage important. C'est sûr que pour l'instant, il est en pole position, mais de mon point de vue, ça ne va pas durer.
Si vous le permettez, revenons un tout petit peu sur le cas Nikki Haley qui se retire de la campagne, mais qui, dans son discours, n'a pas soutenu Trump lors de son intervention hier à Charleston. Elle met au défi l'ancien président de gagner le soutien des républicains modérés et des électeurs indépendants qui l'ont soutenu. Alors, on a vu Trump et aussi Biden qui a appelé Nikki Haley, surtout les électeurs de Nikki Haley, à les rejoindre. Qui va désormais bénéficier du vote de ces électeurs, selon vous, Madame Sefok?
Alors c'est difficile à juger pour l'instant parce que vous avez d'une part des électeurs qui sont des électeurs républicains qui sont complètement anti-Trump. Pourquoi? Parce que les années Trump n'éveillent pas, si vous voulez, des bons souvenirs. C'était les années de pandémie, c'était les années de restrictions, des années très difficiles, des années de chaos aussi. On se souvient que ça aboutit au 6 janvier. Et donc vous avez tout un électeur classique qui est plutôt pro-Bush, pro-Reagan. Ce sont des anciens électeurs de Bush et de Reagan qui sont très sceptiques vis-à-vis de Trump. Ce sont des républicains classiques qui, eux, veulent un certain ordre, une certaine paix, qui ne retrouvent pas du tout chez le candidat Trump, qui, lui, est dans la candidature est entachée par un certain nombre de chefs d'accusation qui ont été présentés contre lui, au total 91. Et donc, pour ces candidats, l'option, c'est de ne pas voter ou alors de voter pour Biden. Ou alors écrire sur leur bulletin un autre candidat. Donc, vous avez cet électorat-là qui ne veut absolument pas voter pour Trump. Côté Biden, vous avez des électeurs qui lui reproche quelque chose qu'il ne peut pas changer, c'est-à-dire son âge.
Nikki Haley n'a peut-être pas fait le poids face à l'ancien président Donald Trump durant cette primaire, mais est-ce qu'on peut dire que sa présence a fait effet, a fait finalement le poids contre Biden, contre Trump, pardon, Jean-Claude Zamba?
Bon, je pense que la consultation du Super Tuesday est toujours une possibilité pour les différents politiciens d'avoir, sur le plan sociologique politique, de comprendre un peu ce qui se passe. Je pense que ce soit du côté démocrate ou républicain, il y a beaucoup de leçons à prendre. Avec ceux qui ont décidé de voter pour Mme Nikki Haley, je pense que comme l'ont fait les deux présidents, que ce soit Trump ou Biden, maintenant là, ils vont se mettre en marche, ils vont mettre en place une machine, je ne dirais pas une machine de guerre, mais une machine politique pour aller après cet électorat. Il est toujours important que la démocratie se fasse, et là, Nikki Haley a peut-être montré une possibilité à M. Trump, surtout du côté républicain, de redresser un peu son appareil électoral et d'aller avec son équipe, une équipe assez performante, vers ce groupe de personnes. Il faut savoir que en politique, tout peut se passer en 24 heures. Donc vous savez, d'ici novembre, le 5 novembre, beaucoup de choses peuvent changer, mais en ce qui concerne Nikki Haley, je pense que du côté républicain, ça leur a permis de voir quelque part, là il y avait des manquements, et peut-être de pouvoir se réunifier, comme a dit M. Trump. Il disait que son but était quelque part d'unir le parti et d'unir le pays.
Pour certains, elle aurait pu rester dans la course et être une solution de remplacement en cas de condamnation de Donald Trump. A-t-elle finalement fait le bon choix de se retirer, René Lake?
Oui, ça dépend de à qui on pose la question. J'imagine que ses supporters ne sont pas particulièrement heureux de la voir se retirer. Et au fond, tout le groupe des anti-Trump, qui est un groupe quand même relativement important chez les Républicains, aurait aimé qu'elle continue un peu plus. Mais vous savez, dans le même temps, on peut se poser des questions sur la nature du Parti républicain, puisque juste après qu'elle a annoncé son retrait, Mitch McConnell, qui est le numéro un républicain au Sénat, a annoncé qu'il soutenait maintenant Donald Trump, alors qu'ils ont eu, lui-même avait eu des mots très 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 durs contre Donald Trump, notamment après le 6 janvier. Et ça continue ainsi. Il y a également maintenant le numéro 2 républicain, qui lui aussi était un critique de Trump, a annoncé qu'il allait soutenir Trump. Donc le parti se rallie derrière Donald Trump, et au fond j'ai l'impression que c'est l'âme du parti républicain qui est en jeu ici.
Parlons de Joe Biden, qui, selon certaines analyses, a été confronté à un manque d'enthousiasme pendant ce Super Tuesday. Le Minnesota a enregistré, par exemple, un nombre élevé de démocrates qui ont voté sans engagement pour protester contre la gestion de la guerre à Gaza pour le président. Est-ce que cela peut constituer des difficultés pour Joe Biden en novembre, Madame Seyfocl?
Alors, il faut dire que l'électorat du Michigan, l'électorat arabe, évidemment, essaye de pousser Joe Biden dans une certaine direction pour une résolution du conflit à Gaza. Ce n'est pas seulement l'électorat arabe-américain, c'est aussi une bonne partie de la jeunesse américaine qui veut qu'il y ait un changement de politique vis-à-vis du conflit à Gaza. Ils veulent absolument cesser le feu, ce qui serait tout à fait normal, puisque vous avez des milliers de personnes qui meurent à Gaza dans un conflit qu'eux-mêmes n'ont pas créé, ce que seulement un groupe a créé. Donc cela, oui, vous avez un électorat qui était pratiquement acquis aux démocrates et qui peut ne pas voter, ou alors ne pas voter Biden pour ces raisons. Est-ce que cela va changer complètement la balance? Peut-être pas, puisqu'il s'agit d'un électorat relativement nouveau, un électorat qui n'est pas énorme, si vous voulez, mais qui se concentre surtout sur un État, l'État du Michigan.
Les votes sans obstacle peuvent-ils constituer des difficultés pour Joe Biden en novembre, Jean-Claude Zamba?
Non, pas nécessairement. Bon, vous savez, comme je disais, en 24 heures, tout peut changer. C'est quelque chose que l'on voit toujours en politique. Ce qui est clair, c'est que cette consultation du Super Mardi a été une opportunité des deux côtés de voir où doit se recadrer. Et j'ai vu qu'au niveau de ces dernières sorties, M. Biden a parlé de l'inflation, de comment mettre en place un task force pour pouvoir voir dans quelle mesure limiter l'inflation. Définitivement, les jeunes ont été beaucoup perturbés par la politique américaine au Moyen-Orient, et je pense également de ce côté-là, le camp Biden s'effectuera dans la plus grande mesure de voir dans quelle mesure faire un certain rattrapage. Mais comme on dit, ça ne veut pas dire que parce que M. Biden est en train de s'améliorer, que le Parti républicain ne va pas également faire leurs efforts. Ce que l'on constate, c'est que le Trump de 2020 n'est pas le même Trump de 2024. La même chose pour son électorat. Son électorat a progressé et je ne pense pas qu'il va s'arrêter à ce niveau-là.
Un commentaire, René Lake?
Pas particulièrement. Je crois que je suis assez d'accord avec vos invités. La question pour Trump, c'est est-ce qu'il va arriver à mobiliser, à amener à lui quelques-uns des anti-Trump qui se sont manifestés autour du vote pour Nikki Haley. Vous savez, on a quand même un tiers des républicains qui ne sont pas certains de voter pour Donald Trump. Dans un État comme la Caroline du Nord, c'est 4/5 des personnes qui ont voté pour Nikki Haley qui disent ne pas être encore sûrs de voter pour Donald Trump. Donc il y a là un travail de rattrapage assez sérieux à faire.
Un travail de rattrapage assez sérieux a fait. Cette élection aux États-Unis intéresse au-delà des frontières américaines. Nos téléspectateurs en Afrique se sont prononcés sur le Super Tuesday. Je vous propose quelques réactions recueillies sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad nous dit que le duel entre Donald Trump et Joe Biden sera vraiment serré sur les affaires de sécurité des États-Unis, les migrants et la diplomatie. Biden, selon lui, est en avancée en âge, risque de perdre après la victoire judiciaire de Trump. L'Asga Sek à Dakar au Sénégal nous dit que Biden a l'obligation de combler l'écart dans les sondages qui sont favorables pour l'instant à Trump. Pourtant, l'administration Biden a à son actif beaucoup de réalisations sur le plan des infrastructures et le chômage. Mais le point d'Achille des démocrates, ce sont l'immigration et le financement de l'effort de guerre dans le monde. Alphonse Mbouaki à Kinshasa en RDC, les sujets qui font débat et qui font déjà débat et qui le feront sont le problème de l'immigration clandestine dans les frontières sud de l'Amérique avec le Mexique, ensuite l'implication des États-Unis dans la guerre entre Israël et la Palestine et celle de la Russie contre l'Ukraine. Vous suivez Washington Forum sur VOA Afrique. On se retrouve après cette courte pause.
Une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Bienvenue si vous nous rejoignez Washington Forum sur VOA Afrique et aujourd'hui nous analysons l'actualité américaine dominée par les résultats du Super Tuesday avec mes invités Dr Marilyn Sifocle, professeure à Howard University et présidente de la Women Ambassadors Foundation ici à Washington, Jean-Claude Zamba, analyste politique et économique, et René Lake, consultant, analyste politique. Est-ce qu'on peut s'intéresser un tout petit peu aux accusations, les 91 accusations qui pèsent contre Donald Trump et qui constitue le grand inconnu dans ces élections? Et qu'est-ce qui se passerait si ces affaires ne sont pas traitées avant novembre, Madame Sifocle?
Alors, si ces affaires ne sont pas traitées avant novembre, évidemment, cela va dépendre de qui l'emporte pour la course présidentielle à la Maison Blanche. Alors, si c'est Trump, évidemment, il va se pardonner lui-même. Voilà. Et s'il s'agit de Biden, eh bien, il y aura, il y a une certaine inconnue. On ne sait pas quelle sera la réaction de l'administration Biden vis-à-vis de ces 91 chefs d'accusation, mais on suppose que le procès continuera et que les procès continueront et que Trump sera jugé pour ces 91 chefs d'accusation.
Un avis, Jean-Claude Zamba?
Ah, je suis tout à fait d'accord avec Mme Sopforte et je pense que c'est pourquoi M. Trump ici a plus qu'un enjeu sur cette élection américaine présidentielle, c'est de tout faire pour qu'il soit élu le 5 novembre 2024 président des États-Unis. À ce moment-là, il pourra utiliser tous les leviers à sa disposition pour pouvoir se faire pardonner et pardonner certaines personnes qui ont été inculpées dans ce processus.
Vous partagez de même avis, Rédélique ?
Oui, écoutez, en tout cas, jusqu'à présent, cela l'avantage beaucoup au niveau de sa base, au niveau des Républicains. Tous les problèmes, les 91 chefs d'accusation qu'il y a contre lui, semblent être à son bénéfice d'un point de vue politique, en tout cas pour mobiliser sa base. Mais maintenant, quand on arrive à une élection générale, quand ce sera juste lui contre Biden, je doute que cela soit à son avantage, que les procès aient lieu ou pas. Donc le simple fait qu'il y ait cette épée Damoclès sur sa tête, je pense que ça va, que cela va, il y a des chances que ça détourne l'intérêt de la population et y compris en particulier d'un groupe de votants très important qui sont les femmes dans les banlieues des grandes villes, y compris les femmes républicaines. Donc je crois qu'il va y avoir quelques difficultés à ce niveau.
Je reste avec vous, René, pour parler de ces bulletins blancs. Selon certains médias, de nombreux bulletins blancs étaient dans les urnes mardi. Est-ce qu'on peut parler de rupture définitive ou d'un avertissement de début de campagne à l'endroit des deux candidats qui se présentent à ce scrutin?
Ah, écoutez, les deux candidats ont des faiblesses énormes. On vient de parler de celle de Donald Trump, 91 chefs d'accusation. Et tout à l'heure, on a parlé également de l'âge de Joe Biden, y compris chez les démocrates. Plus de 70% des démocrates pensent que Joe Biden est beaucoup trop âgé pour être président de la République. Et en plus de ça, il y a quelques signes de faiblesse d'un point de vue de sa santé qui sont relativement apparents quand il est dans l'espace public. Donc c'est sûr que les deux candidats ont des faiblesses à un niveau historique jamais vu aux États-Unis. Au point qu'aujourd'hui, j'ai vu qu'hier ou avant-hier, je crois que c'était hier, le Washington Post avait cet article, ses éditoriaux, où il disait que ça sera certainement la campagne la plus négative, la plus longue aux conséquences négatives les plus importantes aux États-Unis dans l'histoire des États-Unis. Donc on est dans une situation historique à n'en pas douter.
Jean-Claude Zamba, votre avis sur ces bulletins blancs enregistrés mardi?
Je suis tout d'accord avec M. Lenec. Je pense que c'était pour eux une façon de se faire prendre en compte par les décideurs politiques des deux camps. Effectivement, l'âge est un problème qui revient depuis. Hein. Il y a la possibilité que M. Biden ne puisse pas terminer ce deuxième mandat. Et donc, pour certains, la possibilité d'avoir Kamala Harris comme présidente des États-Unis ne les sied pas. Donc ici, il y a deux éléments. Il y a l'élément président Biden, l'élément sa vice-présidence qui ne termine pas. Et puis, bon, du côté de M. Trump, on voit bien les déchets d'accusation et également les comportements qu'il aura par rapport à ces personnes-là. Mais moi, je pense que c'est là où encore on voit la force de la démocratie, la possibilité des personnes de dire « Je ne suis pour aucun des candidats en ayant un bulletin blanc ». Moi, je pense que c'est très bien d'avoir ce genre de système démocratique. Merci.
Madame Sefok.
Oui, alors, il faut se rappeler que certaines personnes qui mettent un bulletin blanc, ils ont en tête beaucoup d'images, surtout vis-à-vis du candidat Trump. Par exemple, quand on parle des 91 chefs d'accusation contre Trump, nul ne peut ignorer le fait que Trump a contribué à mettre en prison 5 jeunes gens, 5 jeunes noirs américains, qui avaient été accusés à l'époque, dans les années 90, d'avoir violé une femme blanche. Donc ces jeunes gens, ils ont passé à peu près entre 10 et 15 ans en prison, et alors qu'ils n'avaient pas violé cette dame. Et donc il y a, si vous voulez, dans la tête de l'électorat une espèce de retour de bâton ces personnes qui avaient été accusées, ces cinq jeunes noirs qui avaient été accusés, eh bien, eux, ils font campagne. Ils font campagne du côté de qui ? Ils font campagne du côté de Biden. Ils ont passé donc des années en prison inutilement parce que Trump avait pris toute une page, avait utilisé évidemment son pouvoir financier pour acheter toute une page du New York Times pour inciter les juges à inculper ces jeunes noirs. Donc ça, c'est une affaire qui va sans doute remonter à la surface. Et aujourd'hui, parmi les chefs d'accusation, lui, il est accusé aussi lui Trump de viol et par plusieurs femmes. Donc ça, ce sont des choses extrêmement graves qui pèsent très lourd comparativement à l'âge de Biden. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Mais on a vu aussi des sondages qui parlent de l'impopularité du président Biden auprès de l'électorat noir. Pour revenir sur les sujets qui vont dominer cette campagne, selon les sondages Edison réalisés à la sortie des urnes dans plusieurs États mardi dernier, l'immigration et l'économie sont les principales préoccupations des électeurs des deux partis. J'aimerais vous demander lequel des deux candidats sera plus convaincant sur ces questions. Mais il y a également d'autres sujets, selon vous, qui seront à l'ordre du jour pendant ces campagnes. Madame Seyfog.
Oui, alors l'immigration, et vous avez mentionné aussi un autre sujet, si vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît.
J'ai parlé de l'immigration et de l'économie.
Ah oui, de l'économie. Alors, pour ce qui est de l'économie, il s'agit d'un gros plus côté dans la case Biden, parce que l'économie, non seulement se porte bien, mais vous avez aussi de gros travaux qui ont été entrepris sous Biden, c'est-à-dire des ponts, des routes, toute une infrastructure, et aussi Biden a mis énormément de financement derrière les véhicules électriques. Donc, il s'agit là de tout un programme d'infrastructures, de renouvellement des infrastructures vieillissantes des États-Unis qui va peser quand même lourd dans la balance.
Donc selon vous, le président Biden est plus convaincant sur cette question, surtout l'économie. Jean-Claude Zamba, votre avis ?
Par rapport à l'immigration, d'après les analyses que j'ai pu faire, les gens qui sont contre cette immigration, on parle à peu près de 300 000 immigrants, que ce soit à la frontière d'Arizona, du Texas, les gens sont plus convaincus que M. Trump aura une attitude qui pourra sécuriser les États-Unis. Déjà, pendant son mandat, 571 miles de murs avaient été mis en place. Il avait négocié avec le Mexique pour avoir 28 000 patrouilles du côté mexicain, qui était bon, voilà, une des choses qui a été quelque part assez difficile à mettre en place parce qu'il a dû mettre de son poids. Donc au niveau de l'immigration, je pense que ce serait le côté Trump qui, pour moi, à mon avis, l'emporterait. Au niveau de l'économie, n'oublions pas que nous avons la vision démocrate, la vision républicaine, et là je pense que les deux sont en mesure de mettre en place une politique assez importante qui peut faire sortir les États-Unis dont beaucoup parlent et qu'on voit d'autres pays qui s'en sortent très difficilement.
René, que je vous laisse conclure.
Oui, écoutez, sur ces deux questions, l'économie, paradoxalement, en économie comme l'immigration, on est dans une situation paradoxale. Les sondages donnent Trump lui donne un avantage sur ces deux questions-là, et alors que paradoxalement l'économie se porte plutôt bien, le Dow Jones est à plus de 38 600 points, c'est un record historique, et c'est un bon indicateur pour la confiance des investisseurs dans l'économie américaine. Et au niveau de l'immigration, Joe Biden a proposé au niveau du Congrès récemment une loi qui va dans le sens même de ce que les républicains demandé, mais pour des raisons politiques, politiciennes, on pourrait dire, les républicains l'ont rejeté à la demande de Donald Trump. Donc c'est paradoxal, voilà deux secteurs dans lesquels, sur lesquels Trump a un avantage, alors que dans la réalité, l'avantage devrait revenir à Biden. C'est assez paradoxal.
Merci. Merci, monsieur et madame Sefocle, pour votre intervention dans ce débat Washington Forum. Alexandrine Coignon à la présentation et merci à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent africain. Washington Forum, c'est tous les jeudis, 19h30, universel sur VO Afrique et sur voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche. Très bonne soirée et prenez soin de vous.